but you are liberated from the self.
Jim Harrison.
Into the world at large through literature.
Je voulais être peintre quand j'étais très jeune, mais je crois que la littérature nous amène à une vision beaucoup plus large du monde.
Sure, because I was a farm boy.
J'étais enfant de paysan.
Ça peut pas faire de mal.
J'avais un enseignant très francophile qui m'a fait découvrir Stendhal.
So there, and then
et l'année suivante, Apollinaire.
From hoeing corn.
Oui, donc je suis passé du fait de récolter le maïs
and working construction
et à travailler sur des chantiers
into this world of literature.
Dans cet univers de la littérature.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Sanderson avait une dizaine d'années quand il contracta une angine accompagnée d'une forte fièvre. Le dimanche matin, il dut pourtant se rendre au service luthérien. La voix grave et étonnante de l'homme de Dieu égrena les 7 péchés capitaux. L'orgueil, l'avarice, l'envie, la luxure, la gourmandise, la colère et la paresse. Durant le trajet du retour dans leur vieille Plymouth aux ailes et aux pare-chocs rouillés et brinque-ballons, il demanda à voix haute ce que signifiait la luxure. Son père déclara « Tu le découvriras quand tu auras 14 ans », l'une de ces réponses typiques où la vie tout entière se retrouvait otage de l'avenir. Une fois à la maison, il chercha dans le dictionnaire et découvrit que la luxure signifiait un désir sexuel effréné. Toujours omnubilé par ce sujet au petit déjeuner le lendemain, il demanda s'il allait bientôt mourir puisque ses péchés étaient mortels. Si on en commettait un par inadvertance, méritait-on de mourir? Quand on reluquait les cuisses de la maîtresse de CM1 sous sa robe, risquait-on de tomber raide mort? À son âge, c'était moins abstrait que le désir sexuel. Un simple regard était-il de la luxure? 30 années devaient s'écouler avant qu'il comprenne que c'était sa fièvre carabinée qui en avait fait une expérience aussi frappante, sinon choquante. Si l'on pouvait pardonner à Marie-Madeleine d'être une putain, pourquoi d'autres devaient-ils mourir sous prétexte qu'ils lui avaient rendu visite? C'était vraiment déconcertant. Sa fièvre ne lui permit pas d'aller pêcher à travers la glace, mais on l'avait contraint à se rendre au temple. Ce genre d'injustice pèse lourdement sur les épaules d'un enfant qui en tient la liste pour un éventuel usage ultérieur. Cette obsession pour le désir sexuel et le mystère de la chair hante l'œuvre d'un immense romancier américain, hélas disparu au printemps dernier, Jim Harrison. La confession que vous venez d'entendre est celle de son célèbre personnage, l'inspecteur Sanderson, au moment où il prend sa retraite. Cet extrait est tiré du dernier roman publié de son vivant, Péchés capitaux, édité en 2015 chez Flammarion. Ce soir, cette émission rend hommage au grand maître de la littérature américaine, selon le titre de l'un de ses derniers ouvrages. Pour évoquer la personnalité fascinante de l'écrivain qui a quitté les bancs de l'université pour vivre toute sa vie dans une ferme, je vous invite à parcourir son tout premier roman, Wolf, paru en 1971. Ouvrons ses mémoires fictifs qu'il publie à l'âge de 33 ans, quelques années après l'événement traumatique qui a bouleversé son existence, la mort brutale de son père et de sa sœur dans un accident de voiture en 1963. Un autre accident avait déjà marqué son enfance, la perte de la vue de l'œil gauche à l'âge de 8 ans, handicap dont il ne se remettra jamais. Après avoir publié deux recueils de poésie, Jim Harrison revient dans ce premier récit faussement biographique à ses jeunes années, où entre 17 et 20 ans, il se rêve écrivain sans y parvenir, succombant à ses obsessions pour l'alcool et le sexe, trompant ses désillusions dans la contemplation de la nature. Suivons les traces du jeune Harrison qui, à l'âge de 16 ans, quitte sa région natale du Michigan pour tenter sa chance à Boston, puis arpente le continent américain de San Francisco à New York. Car, comme le confiait le romancier sur ses vieux jours, je cite, « Nous sommes les lieux où nous avons été ». Commençons par la préface, où l'écrivain s'amuse à brouiller les pistes entre réalité et fiction. S'il change de nom, l'auteur évoque des éléments très personnels. La généalogie de sa propre famille, liée à la terre, ses origines suédoises du côté maternel, et le destin tragique de son père, qui a réellement travaillé au département de l'agriculture du Michigan. Voici ce texte qui flirte entre autobiographie et autofiction, et qui semble donner raison à l'une des plus belles phrases du romancier, je cite encore, « Une fois morts, nous ne sommes plus que des histoires dans l'esprit d'autrui. Lorsque la chienne aboie ou grogne dans la nuit, je me demande de quelle présence elle nous avertit. Chat errant, putois, assassin ou fantôme. Il m'est passé par la tête l'autre matin que si les gens ne parlent pas de la mort, c'est parce que, même pour les plus simples d'entre eux, elle ne présente pas grand intérêt. Cela change bien sûr totalement quand elle s'approche d'un individu en particulier, mais jusque-là, la mort a pour nous la vraisemblance, la réalité de notre voyage sur la Lune pour un zèbre. Mais pour en revenir à l'histoire, je ne parlerai pas de la mort. Ceci est un journal traitant principalement des années 1956-1960, écrit de l'avantageux point de vue du présent. De faux mémoires donc, pas même chronologiques, et dont l'auteur est à lui-même une antiquité de 33 ans, moment critique où toujours les âmes littéraires se retournent et regardent en arrière. Les poisons ont presque tous été auto-injectés, certains auto-infligés. Comment peser les tissus cicatriciels mentaux ? Nous devons à ce stade de l'histoire nous contenter de notre prose et, quel que soit le nombre de leurs fans, la nature, l'amour et le bourbon se sont révélés incapables de guérir le cancer. Je m'appelle Swanson, un nom ni très vrai ni très honorable. Ce n'est pas notre vrai nom, puisqu'il fut donné à mon grand-père, un Suédois, sur Ellis Island. Les services de l'immigration avaient décidé que trop d'immigrants nordiques portaient des noms identiques ou similaires et qu'il serait plus simple s'ils en inventent ou en choisissent d'autres parmi ceux de leurs ancêtres. Chaque nouvel arrivant se vit offrir trois courtoises minutes pour y réfléchir. Voilà comment je devins Swanson, bien que guère fils ni petit-fils de cygne. Et ce nom n'a rien d'honorable puisque personne dans la courte histoire plutôt bien connue de notre famille n'a jamais rien fait qui vaille la peine d'être pris en considération. L'un de mes grands-pères était un pauvre fermier qui lutta pendant plus d'un demi-siècle pour arracher leurs fruits à 25 hectares de terre aride. Il y mourut sans avoir réussi à économiser de quoi acheter un tracteur et laissa à ses héritiers une propriété hypothéquée. L'autre était un ancien bûcheron, fauteur de troubles, devenu cultivateur, rustre et soulard. Mon père fut le premier des deux côtés de la famille à faire des études universitaires. Il travailla comme agronome pour le gouvernement pendant la Grande Dépression et mourut dans un violent accident sans avoir été heureux, je pense pouvoir le dire honnêtement. Pour ceux qui croient aux étoiles, je suis né sous le signe du Sagittaire en cet hiver particulièrement rude de l'an 1937. J'ai eu une enfance agréable, totalement banale et dont je ne parlerai pratiquement plus. Enfin, voici l'histoire, la fiction, le roman. Une sombre souffrance m'a obligé à raconter mon histoire, a dit quelqu'un il y a longtemps. Je n'ai jamais vu de loup. Les animaux des eaux ne comptent pas et n'ont pas plus d'intérêt qu'une carpe morte, triste, furtif, funèbre. Peut-être ne verrai-je jamais de loup. Et je n'en fais un problème pour personne d'autre que moi. Loup, y es-tu ? Ce n'est pas tant la peur que le narrateur affronte dans ce récit qu'une épreuve bien plus redoutable, le face-à-face avec soi-même. Contemporain de Kerouac et de son roman Sur la route, le héros de Jim Harrison décide de se retirer une semaine dans la forêt afin de rompre avec ses addictions, l'alcool, la drogue et le sexe. Dans la solitude, il se rappelle ses errances et ses vagabondages. Dès les premières pages, il évoque avec beaucoup d'humour ses petites lâchetés et ses grands regrets. Derrière la figure du père, se devine peut-être le souvenir de sa sœur Judith, avec qui l'adolescent partageait ses lectures. Dans le passage suivant, le narrateur, se réveillant d'une nuit passée sous la tente, décide de rejoindre sa voiture, garée non loin de là, au pied de la montagne. 2 heures plus tard, j'étais perdu au mystérieux fin fond de la forêt. Celui qui se perd connaît toujours quelques instants de panique absolue où il se croit fichu. Le cœur palpitant, on tourne en rond presque sur place, la boussole indiquant une direction impossible. Ou si l'on suit une rivière, c'est pour s'enfoncer bientôt dans ces marécages où des nuages de moustiques vous accompagnent, volant comme par hasard juste à la hauteur de votre visage. Puis quand les palpitations affolées se calment, il est en fait assez facile de faire demi-tour pour parcourir en sens inverse le chemin qu'on a tracé dans les fourrés. Seuls meurent perdus dans les bois, et ils ne sont pas nombreux, ceux qui ont attendu trop longtemps pour revenir sur leurs pas. Je ne retrouvais ma tante qu'au milieu de la soirée. À 10 heures, quand je dînais de haricots et d'oignons bouillis, il ne faisait pas encore nuit. J'inondais mon assiette de sauce au piment rouge et m'appuyais contre un arbre en me disant que j'aurais bien bu un grand verre de whisky tiède ou une série de petits doubles. Je repensais alors au Kettle of Fish, le bar de McDougall Street, où j'avais commencé à boire sérieusement. Tout le monde y semblait deux fois plus vieux que moi. J'avais 18 ans. Et 4 demi suffisaient à me faire tourner la tête pour 80 cents. Je bus de l'eau pour apaiser le feu qui me brûlait la gorge et regardais ma montre à la lumière des flammes. Elle s'était de nouveau arrêtée. En l'enlevant, je remarquais la bande de peau blanche qu'elle avait laissée à mon poignet, comme une part de moi-même étrangère au reste de mon corps, et ça m'a rappelé cette amie qui avait une croix mexicaine tatouée à cet endroit. Je jetai au feu cette super occasion à 7 $ et imaginai qu'au contact de la chaleur, les aiguilles reviendraient en arrière ou tourneraient au ralenti. À l'inverse de ces montages cinématographiques où les pages d'un calendrier défilent et les trains traversent le pays d'un coin à l'autre de l'écran, de triomphe en triomphe avec le nom d'une star de plus en plus grand sur les affiches des théâtres. Je me passais du produit anti-moustique sur les mains, le visage et le cou et me glissais dans le sac de couchage. Nous avions suivi une route gravelée bordée de chaque côté par des peupliers de lombardiers qui commençaient à mourir et dont les plus hautes branches perdaient toutes leurs feuilles. Mon père tripotait le bouton de la radio. Puis il avait dit « Il n'y a pas de match aujourd'hui, c'est lundi ». Il avait tourné dans un chemin plein de trous et d'ornières qui menait à une ferme cachée derrière un bosquet d'orme et d'érable. À notre arrivée, deux chiens avaient bondi de la véranda comme prêts à mettre la voiture en pièces pour nous dévorer. Mon père était descendu et m'avait dit « Viens ». Mais je n'avais pas bougé. Je ne voulais pas salir mes chaussures neuves que je m'arrachais à faire briller contre mes jambes de pantalon depuis que nous étions sortis de la ville. Mon père s'était éloigné, les chiens l'avaient laissé tranquille. J'avais entendu des rires et m'étais retourné pour regarder de l'autre côté de la cour ombragée trois filles qui jouaient à la balançoire. Une corde pendait d'une branche basse d'un orme à laquelle on avait accroché un pneu. Elles y montaient tour à tour et l'aînée soulevait la plus petite pour l'installer debout, une jambe de chaque côté du pneu. La petite avait perdu 3 doigts. Elle tenait un brin de lilas entre le pouce et l'index qui lui restait et de l'autre main s'accrochait à la corde. Les lilas poussaient le long d'un fossé à l'autre bout de la maison. La ferme avait des murs doublés de panneaux imitant la brique brune, ce qui était alors presque une marque de fabrique des maisons pauvres. On était en mai, les lilas fleurissaient en grosses grappes blanches et violettes, leur lourd parfum se mêlant à celui de la menthe sauvage du fossé. L'aîné, qui semblait avoir une douzaine d'années, était monté sur la balançoire et s'était élancé de plus en plus haut. Elle chevauchait la balançoire, les jambes écartées, et sa robe volait autour d'elle, de plus en plus haut à chaque nouvel élan. J'avais regardé encore une fois mes chaussures neuves, tourné le bouton de la radio. Quand j'avais relevé les yeux, j'avais vu ses jambes et ses hanches, son slip, tout ce que sa jupe ne cachait plus. Je m'étais senti tout flou, au bord du fou rire, avec une terrible envie d'aller les rejoindre et de leur parler. Mais à ce moment-là, mon père était ressorti de la grange. Il avait serré la main de l'homme et nous étions repartis. Il n'était pas plus tard que minuit quand je me réveillais et le feu s'était éteint. Je me levais, rallumais un feu et décidais de faire du café et de veiller toute la nuit plutôt que de me laisser attaquer par des bêtes sans nom qui, j'en étais sûr, n'existaient que dans les fantasmes créés par mon cerveau en manque d'alcool. Voici le verre qui apaisera toutes mes souffrances, chantait Webb Pierce. Avant 4 heures, le ciel s'éclaircirait. J'ai toujours prêté une attention démesurée à l'heure. Cela fait partie des problèmes que m'ont posé mes quelques passages dans le monde du travail. Je me rappelle avoir travaillé dans un bureau à Boston et au cours de la seconde semaine, avoir un jour levé les yeux vers l'horloge alors qu'il était 2h30 et non 4h30 comme je l'espérais. Je m'étais mis à pleurer. Des vraies larmes, salées, certainement dues aux 5 doubles scotch de mon déjeuner. Un enfant de 27 ans, désespéré par la lenteur du temps, avec des larmes qui coulaient sur ses joues rondes et tombaient sur le col déboutonné parce que cette chemise sortie du tiroir de la commode de son père mort était trop petite pour lui.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end. are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the wedding now. Dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love. We're both of us above. Dance me to the end. Love, dance me to the end of love.
Jim Harrison.
A lot when I, since I was a little boy.
Je pêche depuis que je suis tout petit.
You know, my father started me fly fishing when I was five.
Quand j'avais 5 ans, mon père m'a appris déjà à pêcher à la mouche.
And it's the intensity of the activity, say when you're making love.
C'est l'intensité de l'activité.
To a woman you love.
Quand on fait l'amour à une femme qu'on aime.
Nothing really interferes.
Rien ne peut interférer.
With your consciousness of what you're doing.
Rien ne peut interférer avec la conscience qu'on a de ce qu'on est en train de
faire.
But
maybe that desire is there for biological reason.
Mais peut-être que ce désir est là pour des raisons biologiques.
Say, but then maybe fishing is also biological.
Mais peut-être que la pêche a aussi une explication biologique.
Petit matin, le jeune ermite se dirige vers la rivière pour se désaltérer, mais le spectacle de la nature l'inquiète plus qu'il ne le console. Amoureux des grands espaces et lecteur passionné de Thoreau, Jim Harrison a vécu pendant 60 ans dans une ferme du Michigan, sans jamais quitter sa région natale. Il se confie en ces termes, je cite, « Le mot paysan n'est pas démocratiquement correct, confie-t-il, mais je sais d'où je viens. De longues lignées de paysans. Des deux côtés de ma famille. » Dans le passage suivant, le narrateur, fils de chasseur et pêcheur, dénonce le saccage de la faune et l'exploitation des terres par l'industrie, ainsi que le génocide des Indiens à l'époque de la ruée vers l'or. Les crues du printemps avaient laissé leurs cicatrices sur le bord du ruisseau, bois flottant éparpillé, amas de petits arbres déracinés. La fin de l'hiver devait être étrange dans ce coin. On y avait enregistré jusqu'à presque 7 mètres de neige et des températures descendant quelquefois jusqu'à moins 40. Les serres se retiraient au plus profond des cédrières marécageuses, mais si le blizzard se mettait à souffler au printemps, quand ils étaient au plus faibles, ils mouraient de faim par milliers. Il y avait quelques années, on avait estimé à 50 000 le nombre de serres acculées à la mort. Au printemps, les ruisseaux deviendraient torrents, bondissants et turbulents, alimentés par la fonte des neiges et des glaces. J'aurais voulu voir ça, mais les monts Huron étaient impénétrables en hiver. À moins d'y venir en motoneige, une machine qui m'horrifiait et me semblait accélérer la ruine de tous les lieux normalement inaccessibles. Il n'y avait plus de terre vierge, seulement quelques avant-postes moins visités que d'autres. On creusait l'Arctique pour y puiser du pétrole, des grandes mares d'huile suintaient à travers les glaciers. Le continent américain ressemblerait à l'Europe avant que ma vie ne prenne fin, et j'en étais désespéré. La simple odeur du profit nous ferait détruire toute beauté. Il n'était plus question de sentiments. Il en avait été ainsi depuis le jour où nous avions débarqué sur cette terre d'Amérique, et rien ne nous arrêtait désormais. Même nos instincts les plus élémentaires étaient pervertis. Pour préserver notre environnement, nous faisions des parcs nationaux qui étaient en fait des eaux de nature traversées de super autoroutes. Et dans l'avenir, de vastes étendues seraient entourées de barrières empêchant que les animaux soient pourchassés ou qu'ils meurent de faim. J'avais lu le récit d'une femme qui racontait fièrement comment elle avait tué un ours grizzly endormi. Une petite touffe de fourrure s'était arrachée tandis que la balle d'un Magnum 375 transperçait l'animal en une fraction de seconde. Curieuse la façon dont ils savent quand on les prend en chasse, alors que même le renard se retourne pour regarder ses poursuivants. On épuisait le renard à la course avec des motoneiges, puis on le battait à mort. L'élan de l'Ontario sur lequel on tirait presque à bout portant, se débattant dans la neige, lui aussi épuisé à la course par des machines. Les éléphants savaient qu'on leur tirait dessus, comme les femmes indiennes le savaient à Cripple Creek. Et les baleines connaissaient bien maintenant la précision fatale du harpon moderne. Les loups avaient été décimés parce que poussés par la faim, ils tuaient le gibier. Il n'en restait peut-être plus qu'une cinquantaine sur la haute péninsule, que l'on voyait rarement car ils avaient l'intelligence de reconnaître leurs ennemis. Mais il y avait quelques rares endroits comme celui-ci qui, parce que pas assez rentables, étaient au moins temporairement préservés, car après la fin de la ruée vers l'or, 50 ans plus tôt, les rivières avaient retrouvé leur cours normal. Et partout où passaient les bûcherons, les cerfs pouvaient ensuite se nourrir de nouvelles pousses de peupliers. À quoi servait un flanc de montagne envahi de chalets et de skieurs, les plus insensés des crétins prétentieux que j'ai jamais rencontrés? C'était leur droit d'être là. Eux, comme les exploitations forestières, les mines et intérêts pétroliers, mais je n'étais pas obligé de les aimer pour autant. Et il y avait une certaine ironie dans le fait que cette terre serait dévastée avant que les Noirs n'aient le loisir d'en profiter, une autre forme de subtil génocide. Je me sentais la tête faible et froide de cette guerre contre tous. Mais je n'étais pas doué pour la réforme et ne pouvais arrêter de faire couler du whisky dans ma gorge tant que toute bouteille n'était pas à des kilomètres de moi, absolument inaccessible. Qu'adviendrait-il de moi s'il n'y avait pas de forêt au fin fond desquelles se retirer? Que ferais-je quand il n'y aurait plus de terre loin de tout, solitaire? Non que j'y sois compétent, ni que je m'y sente véritablement à l'aise. Ce n'est après tout qu'un monde étranger qui survit, bien que tronqué, dans de nombreuses régions, mais un monde dont le langage a été oublié. Quelqu'un m'a suggéré qu'il y avait peut-être quelque chose de génétique dans l'attirance que je ressens pour ce monde des forêts. Un de mes grands-pères était bûcheron, l'autre agriculteur, ergo la tête me tourne dans le 7e étage d'un immeuble new-yorkais. Il n'y a aucun romantisme dans les bois, malgré ce que prétendent les imbéciles. Le romantisme est dans le progrès, le changement, la disparition d'une race de la terre au profit d'une autre. Quiconque le conteste devrait être largué en parachute ou amené en hydravion dans le territoire du Nord-Ouest, histoire de voir s'il y trouve sa dose de romantisme. J'étais prêt à parier une tournée du Mir Scotch. Par romantisme que le jeune Jim Harrison quitte sa famille dès l'âge de 16 ans pour tenter l'aventure et mener une vie de vagabondage. Il traverse l'Amérique d'est en ouest, multipliant les petits boulots. À Boston, il est serveur dans un restaurant italien. À San Francisco, il est ouvrier agricole. En compagnie d'un copain, il fréquente les boîtes de nuit et squatche chez ses conquêtes féminines. Un jour, il fait la connaissance d'une jeune fille de bonne famille, sorte de Lolita qui se joue de lui. Une diversion ou peut-être une digression, aimer ouvertement et de très près l'être aimé. Tout cerveau imbibé de rhum peut compter un tel souvenir. Peu importe que l'aimer soit une tante avec ce que cela signifie de pensée incestueuse, la fille de l'épicier derrière le comptoir, ou dans mon cas, une supporter de l'équipe de football du lycée. Ou encore une jeune fille dans un chalet, l'été au bord d'un lac, près de West Boylston, Massachusetts. Elle avait 15 ans et moi 17. Plus tard, même pas tellement plus tard dans la vie, ce sens si intense de l'existence vous manque horriblement. Son absence est terrible. Quand on se réduit à une paire de glandes reliées à un petit cerveau bestial, aimé comme si nous étions des créatures fictives, géométriques, pures, diamants à contempler à travers des multiples facettes limpides et ouvertes, mais pourtant humaines. La gorge se serre, les glandes lacrymales débordent, le monde est tangible et frais de nouveau, et nous y retournons encore et encore, recapturant obstinément un rêve merveilleux mais inepte. Elle s'était tournée, avait posé le livre sur mes jambes et enlevé ses lunettes de soleil. « Tu as eu beaucoup de filles ?»« Pas mal, et je mentis. »« Tu les respectes ?»« Bien sûr, c'est bien pour ça qu'elles sont faites, non ?» Elle s'était tournée vers le lac, avait repris le livre sur mes cuisses. J'avais frissonné et senti ma bite devenir dure. Ça n'avait rien à voir avec le fait que j'aime ou non cette fille. Elle avait regardé mon maillot, posé sa main en plein dessus. Les hommes sont drôles. Là-dessus, elle avait ramassé ses affaires et était remontée vers le chalet. À Après le dîner, assis dans le salon avec ses parents, sa sœur, son frère et mon copain, nous avions écouté le Requiem de Berlioz. Ça me rasait, j'étais crevé. J'avais annoncé que j'allais prendre l'air et j'étais descendu au lac, troublé par ce que je ressentais pour elle. Elle paraissait trop jeune, pas encore finie. Elle avait le charme de l'enfance et à 17 ans, je rêvais de femmes charnues, aux seins lourds, qui étaient censées gémir et crier dans le plaisir. La terre semblait calme comme en attente cette nuit-là. C'était l'été 1956, on avait annoncé la création de la bombe H et je me souviens de la fascination que ressentait mon jeune cerveau encore tout imprégné du Nouveau Testament. La terre brûlerait comme une balle de coton trempée dans le kérosène, l'univers se fendrait en deux et Jésus apparaîtrait, auréolé d'une lumière aussi brillante que le soleil. Notre soleil deviendrait un disque calciné et la froide lune rouge reflèterait le feu de l'univers. Sur la jetée, pourtant, je me sentais étranger à ce désastre. Je vivrais avec tous mes espoirs, toutes mes ambitions. Mes perceptions étaient celles d'un enfant. Mes oreilles n'entendaient que le coassement des grenouilles et je sentais encore l'odeur des maillots qui séchaient. Au large, quelqu'un pêchait à la cuillère sous la pleine lune. Je n'entendais pas de voix, seulement le grincement des rames. Ils étaient plusieurs, je les avais vus l'espace d'un instant dans un cercle de lumière tremblotante quand l'un d'eux avait craqué une allumette. J'avais entendu des pas derrière moi, mais je ne m'étais pas retourné. Je pensais que ce n'était que mon copain et n'avait pas envie d'encourager la conversation. Mais ensuite, il y avait une main douce sur mon cou et elle m'avait demandé une cigarette, ce qui m'avait surpris. Elle avait fumé sa cigarette sans rien dire, puis m'avait raconté qu'il venait de parler de moi au chalet. Il trouvait que j'étais un peu rustre. Je ne me lavais pas le matin, je mordais ma fourchette en mangeant, disais sans cesse « ouais, bof », etc. Et je n'aidais pas. Je lui avais expliqué qu'en tant que futur grand poète, je devais laisser les civilités aux civils. Elle m'avait répondu que je ne ressemblais pas à un poète. Ma peau était couleur chocolat parce que je travaillais sur un chantier de construction et mes cheveux aussi emmêlés que de l'herbe sèche. Son ton montrait que pour moi, mon destin était tracé. J'étais un plouc, un pecno, comme ceux dont nous nous moquions au lycée parce qu'il restait du fumier sur leurs bottes. « Et vous, vous n'êtes qu'un ramassis de sales bourgeois barjots. Pourquoi être grossier? Je ne fais que répéter ce qu'ils ont dit. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?»« Je ne sais pas. » J'étais furieux, furieux. De ce genre de colère qui précède une bagarre, quand on y voit littéralement rouge. « Je pars demain matin. »« Pourquoi ?» J'avais posé la main sur son épaule, l'avait attirée vers moi et embrassée. Elle était toute raide, les lèvres fermées. Et quand nous nous étions allongés sur la jetée, elle avait ouvert la bouche. Enlacés, serrés l'un contre l'autre, jusqu'à ce que mes lèvres me fassent mal, mais elle ne m'avait pas laissé lui enlever sa culotte. J'avais frotté mon sexe contre son ventre, ses jambes passées autour de moi, et joui. Elle s'était écartée, je lui avais donné mon mouchoir, et j'avais allumé une cigarette pour elle, puis une autre pour moi. « Je t'aime », lui avais-je dit. « N'est pas vrai ?» Fin de notre idylle. Je ne pouvais continuer à vivre sans amour. J'étais parti avec mon copain à l'aube le lendemain. Au dernier moment, j'avais glissé un mot sous la porte de sa chambre pour lui dire encore que je l'aimais. La porte s'était ouverte brusquement, elle s'était jetée dans mes bras en chemise de nuit d'été bleu pâle. Ma main avait glissé sous le tissu le long de son dos nu jusqu'à ses cuisses, puis par devant, sur son sexe et ses seins sans que nous cessions de nous embrasser. Puis j'avais poussé la porte de la véranda sans regarder derrière moi et j'étais monté en voiture. Mon copain avait roulé à 130 sans lever le pied jusqu'à New York. Après mon retour dans le Michigan, nous nous étions écrits pendant environ un an, puis quand j'étais reparti pour New York à 19 ans, elle était venue me voir mais ne m'avait pas trouvé, car ne pouvant payer mes arriérés de loyer, je déménageais tout le temps. Lorsqu'une longue lettre d'elle m'avait finalement été remise, j'avais pleuré. Elle disait qu'elle avait fait sa valise et voulait passer avec moi une semaine avant de partir en pension, qu'elle s'était arrangée avec une amie pour que ses parents n'en sachent rien, sur du papier à lettres mauve imprimé de petites fleurs et parfumé à la lavande. Je l'avais lue des dizaines de fois jusqu'à ce qu'elle soit toute tachée de bière, de café et de sueur. Je la lisais dans les bars, près des fontaines, dans Central Park, dans les musées, sur l'herbe au bord de l'Hudson, près de Washington Bridge, et le plus souvent dans ma chambre, encore et encore. Il y avait quelque chose de terriblement définitif dans cette lettre, quelque chose de manqué à jamais. Elle allait recommencer à voir son ancien petit ami et je n'aurais été pour elle qu'un intérimaire, un gitan avec qui elle aurait passé une nuit. Ça m'était égal. À 19 ans, un corps est tellement entier. Qu'y a-t-il d'autre alors? Le don du corps et des nuits d'amour sans but. Je lui avais envoyé mon Rimbaud comme cadeau d'adieu, édition Gallimard, reliure cuir, papier Bible, avec un mot sur la page de garde. Si jamais tu changes d'avis. Fin absolue de notre idylle.
Est-ce que vous êtes un romantique?
Oh, I suppose so. You know, I read when I was 16 that Alain Fournier novel The Grand Monde. And that I read John Keats.
Évidemment que je suis un romantique. Je me souviens à 16 ans le choc que j'ai eu en lisant Le Grand Monde d'Alain Fournier. J'ai lu depuis énormément de poésie, en particulier Keats, Byron. Et je pense que les gens les plus simples sont romantiques sans avoir la moindre notion de ce que c'est que le romantisme. Mais qu'en même temps, ils sont capables de vivre des passions jusqu'à la folie, jusqu'à tuer quelqu'un. Et que toutes ces émotions ont été recouvertes par des couches de plus en plus épaisses de culture et qui sont liées aussi aux centres commerciaux, aux supermarchés, à la civilisation contemporaine.
Décidément, la ville de Boston ne porte pas bonheur aux jeunes aventuriers. Retrouvons le narrateur quelques années plus tard, nous sommes en 1970. Il évoque l'année 1965, où sa licence d'anglais en poche, il renonce à un poste universitaire pour se consacrer à la poésie. Malgré les difficultés économiques, ses années d'errance ont forgé son caractère. Passé le temps de la provocation et du pessimisme, il assume son tempérament de jouisseur et d'épicurien. Féru de cuisine, Jim Harrison nous livre ici quelques-unes de ses recettes les plus étonnantes, en particulier contre la gueule de bois. J'étais retourné à Boston après une carrière universitaire ratée et 2 ans de chômage. Sans emploi, entre 2 emplois, si vous voyez ce que je veux dire. J'envisageais de me tirer une balle dans la tête dès que je n'aurais plus rien à manger, mais je reconnis immédiatement que je me racontais des histoires. Je serais encore là en l'an 2000, ne serait-ce que pour dire à mes petits-enfants que j'avais déjà raison en 1970. Le pays serait alors totalement dénaturé. On n'y trouverait plus la chaleur de la moindre porcherie, l'humanité d'un licou passé autour du cou d'une vache. Les granges deviendraient des sanctuaires, on lècherait leurs lisses planches grises en priant. Je donnerais mon corps à la science et dépenserais l'argent, $100 je crois, en bâtons de dynamite. Je ne pourrais pourtant pas racheter le meurtre de cet ours grizzly tué dans son sommeil, ni les massacres de Cripple ou Sand Creek. J'en avais rêvé une fois, et dans mon rêve, les femmes Sioux étaient blanches comme la neige et dansaient autour d'un feu aux flammes noires et vertes. En châtiment de ces crimes, ce pays deviendrait l'Allemagne, le Mississippi notre Ruhr, l'Ohio notre Rhin. Mon père, pour qui préserver la nature était si important, me l'avait dit 20 ans plus tôt, mais il avait fait de la nature son métier. Heureusement qu'il était mort en 1963, avant que l'étendue des dégâts ne se fasse évidente, avant que ne défile le char de carnaval des politiciens pétant et bêlant leurs slogans stupides. Le boum du mur du son écrase le crâne d'un bébé vison, nous le savons. Est-ce que ça ne suffit pas? Si je me tirais une balle dans la tête, là, au milieu de la forêt, il me faudrait brûler ou enterrer vêtements et équipements et creuser un trou profond dans lequel je tomberais nu comme un ver. Une famille de coyotes pourrait vivre sur mon cadavre pendant quelques jours, mais je faisais encore de la littérature. J'aimais les restaurants français. C'était une raison suffisante pour rester en vie. Mousse de brochet, noisette de veau, escargot d'Alsace, ou ma propre cuisine mexicaine. Crêpes de maïs farcies de poulet, de sauce piquante et de crème maigre pour adoucir la brûlure des piments rouges. Le vin, le whisky couleur d'ambre coulant à flots. Ou encore le vieux remède que j'utilisais contre les rhumes à New York, Boston, San Francisco et même dans mon pays. 1 litre de jus de pamplemousse frais, puis 2 litres d'eau tiède. Après 2 heures de repos dans une pièce sombre, faire griller un chateaubriand d'1 kilo, 1,5 kg, à peine bleu, puis le manger avec les doigts et sans sel. Ensuite, l'estomac distendu, prendre un bain extrêmement chaud sans allumer la lumière de la salle de bain et en buvant à petites gorgées lentes le meilleur bourbon que vous puissiez vous offrir, au moins une bouteille. Cela peut prendre jusqu'à 4 heures selon la capacité de chacun. Enfin, dormir 24 heures. Vous vous réveillez alors dans un monde nouveau et votre rhume a disparu. Certains individus congénitalement faibles ont la gueule de bois, mais ce n'est pas de ma faute, je ne suis pas médecin. Allez voir le vôtre. On peut évidemment suivre l'ensemble de ce processus sans être enrhumé et en retirer autant de plaisir. Ce remède soigne aussi la mélancolie. Et faites-vous un baiser forcené pendant des semaines, ce qui n'est pas le cas des huîtres. Un jour, j'étais plein aux as, j'avais mangé 4 douzaines d'huîtres avant d'aller à l'Edwards Western Bar, où je n'avais rien pu boire parce que je savais que quelques-unes de ces huîtres étaient encore vivantes, même si ce n'était que vaguement vivantes, et glissaient en rond contre les parois de mon estomac. Il m'était déjà arrivé de manger de mauvais fruits de mer et de les vomir en faisant des sauts périlleux gymnastiquement exacts dans les rues de Gloucester. Mais ce soir-là, j'avais tristement fini la soirée dans un cinéma porno, tandis qu'à côté de moi, des Bostoniens se branlaient sur leur journal. Chris faisait le papier journal dans le noir de la salle. Pour une fois, je m'abstins de leur faire concurrence.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Revenons au périple de notre jeune aventurier. Après son premier séjour à Boston, le jeune homme part pour l'Ouest américain, qu'il compare à la Sibérie. À San Francisco, il rêve de faire fortune, mais connaît la misère des ouvriers émigrés. Délaissant Jack London pour Jack Kerouac, il décide de traverser le continent en sens inverse et se rend en stop à New York. Il fréquente les beatniks, vit des histoires d'amour compliquées avec une serveuse, Laurie, et une prostituée, Barbara. Dans une librairie, il croise les écrivains Stieg Dagerman et Aldous Huxley. Mais à court d'argent, ayant vendu sa montre et le costume qu'il portait pour la remise de son diplôme universitaire, il rêve d'une vie bucolique dans une ferme du Michigan, entourée d'animaux. Retrouvons notre loup solitaire. Il a enfin regagné sa voiture et quitte les monts Huron en direction de Reed City, la ville de son enfance. Ce retour aux sources lui rappelle la scène de son départ 10 ans plus tôt. Lorsqu'en 1955, l'adolescent de 16 ans annonce à son père son intention de devenir écrivain, celui-ci lui offre une machine à écrire d'occasion. 10 ans plus tard, en 1965, Jim Harrison publie son premier recueil de poèmes. Cadillac, après Monselona et Kalkaska, puis Leroy et Ashton, où je tournais à gauche sur une route gravelée pour un rapide détour au bord du lac. Mais au bout de quelques kilomètres, je m'arrêtais. Il y avait plus de 10 ans que je n'étais pas venu ici, et je décidai que c'était très bien comme ça. Autrefois, trois hérons bleus se tenaient toujours dans un certain sapin géant de l'autre côté du lac. Il y avait aussi quelques grandes tortues alligators qui nous étaient devenues si familières que nous aurions pu leur donner un nom à chacune. Et pendant les premières années de l'après-guerre, une famille de lynx habitait dans les bois, avec une musique à eux si particulière, un feulement aigu et déchirant. Peut-être cela voulait-il dire « je t'aime » en langage lynx. En faisant demi-tour, je faillis m'embourber sur le bas-côté. La seconde bouteille de whisky commençait à faire son effet, un effet merveilleux. Mais je retrouvais mon bon sens l'espace d'un instant et la jetai par la fenêtre encore à moitié pleine. Si je ne veux rien être, cela ne regarde que moi. Un absolument rien auquel j'ajouterai peut-être quelque chose plus tard. J'ai envie de jarrets de porc bouillis avec du pain, du beurre et de la moutarde chaude. Essai. Peut-être ai-je eu assez à boire, comme s'il existait dans une vie un nombre limité de verres à ingurgiter, comparable au nombre officiel et mythique des orgasmes chinois. Avec mon père, nous avions surélevé le toit de la maison, construit un garage et une chambre supplémentaire avec véranda et patio. Cela nous avait pris un mois. Et un jour, debout sur notre nouveau toit, j'avais décidé d'aller à New York. Plus tard, nous nous sommes assis à la table jaune de la cuisine jaune. Pourquoi veux-tu aller à New York ? J'ai pas envie de rester ici. Tu y es déjà allé une fois. Je veux essayer encore. Où vas-tu travailler ? Je sais pas. J'ai 90 dollars. Puis j'étais monté, j'avais mis mes affaires dans la boîte en carton, quelques vêtements qui m'allaient mal, la machine à écrire qu'il m'avait achetée pour 20 dollars 2 ans plus tôt, et 5 ou 6 livres, ma Bible, Rimbaud, Les Possédés de Dostoïevski, Le Faulkner de Poche, Mort à Venise de Thomas Mann, et Ulysse. Cela, exactement. J'allais chercher la corde à linge à la cave et en entourer le carton. Mon père était toujours assis à la table de la cuisine. « Prends ma valise. » Je peux pas y mettre la machine à écrire et en plus tu t'en sers. J'aimerais pouvoir te donner un peu d'argent. Je n'en ai pas besoin. Je m'étais assis avec lui et avais bu une canette de bière. Nous avions parlé de ce que nous avions construit pendant ses vacances. Puis il est allé prendre une bouteille de whisky dans le placard à balai et nous en avions bu chacun quelques petits verres. Puis il m'avait donné 2 de ses cravates qu'il avait nouées pour moi. Je les avais glissées sous le couvercle de carton. Le lendemain matin, ma mère, mes frères et sœurs avaient pleuré parce que je partais. Puis mon père m'avait accompagné à la gare routière. Tu seras toujours le bienvenu à la maison. Et voici pour conclure l'ultime destination de ce passionnant road movie. Quittant les lieux de son enfance, le narrateur poursuit son périple vers le sud. Nous sommes en 1970, année où Jim Harrison rédige à 30 ans son premier roman. 7 ans après les faits, l'écrivain reste hanté par le terrible accident où son père et sa sœur ont trouvé la mort. Sous le choc, l'auteur se confie en ces mots, je cite « Toutes les mythologies de la virilité que j'avais absorbées à partir de l'enfance étaient entièrement anéanties par la vérité de ma fragilité en tant qu'être humain. » Revenons au jeune homme de Wolf. Le voici devant la maison natale de son père, comme si son errance géographique était une façon de remonter le temps en quête de ses origines, à la rencontre des fantômes du passé, comme un adieu à l'Amérique mythique. Je roulais en marche arrière sur le chemin jusqu'après la maison. Personne n'y avait vécu depuis 1938, mais elle était toujours là, avec sa cour pleine de mauvaises herbes, de morceaux de verre provenant des fenêtres brisées et des bouts de gouttières cassés. Un voisin était censé cultiver les terres, pourtant elles étaient presque toutes envahies par la fougère, le phalaris et le sumac. J'éteignis mes phares et restais là, dans le noir, à écouter les cliquetis du moteur en train de refroidir et le chant des grillons. Il y avait dans l'air quelque chose d'humide et doux, trèfle sauvage et roseau du marécage de l'autre côté de la route. Quelqu'un avait rentré du foin. Mon père était né dans cette maison. J'aurais voulu que ce que cela impliquait sombre en moi, mais il ne se passa rien. Plus avant, dans le temps, son arrière-grand-père s'était fixé ici après la guerre de sécession, mais cela ne signifiait rien pour moi. Je ne savais même pas comment il s'appelait. Je ne connaissais pas mieux mes ancêtres maternels. Peut-être aurais-je pu apprendre quelque chose d'eux en allant à Hundsalsvik, sur la côte nord de la Suède. Mais ce n'est pas le genre de voyage qui me tente. Un type aux cheveux filasse, fuyant la conscription, arrive dans le coin 30 ans après qu'un autre type aux cheveux filasse a marché jusque-là épuisé par la guerre. Ils vivent à une 50aine de kilomètres l'un de l'autre, sans se connaître. Et des années plus tard, je suis conçu dans une accidentelle conjonction. Un fils de bûcheron épouse une fille de fermier qu'il a rencontrée au bal, dans une auberge au bord de Muskegon River. Tout cela me laisse froid. Je démarrais et rallumais la radio. 3 heures. Il commencerait à faire jour dans une demi-heure. J'éclairai un instant la maison de mes phares. La porte d'entrée était ouverte. Et si j'avais eu du cran, j'aurais traversé ce trou noir. En hiver, quand il fait moins de zéro, la neige se soulève et glisse, courant blanc bleuté à travers la cour et s'engouffre dans la porte ouverte et les carreaux cassés. De vieux journaux dans une des chambres d'en haut révéleront que rien n'a changé, si ce n'est le monde entier et à la vitesse de la lumière. Je descendis de voiture et m'étirai en regrettant d'avoir jeté la bouteille de whisky. J'allumai une cigarette et me demandai ce que je faisais là, debout, devant une maison vide, à l'aube, comme si j'avais attendu que mon père surgisse sur le pas de la porte, vêtu de la culotte de cheval qu'il portait à l'université, et m'invite à prendre un café avec lui. Il ne reconnaît pas en moi son fils, car il n'est pas encore marié, et a 10 ans de moins que moi maintenant. Son père est déjà debout en train de se préparer pour son travail. Il dit à mon père d'enlever cette foutue culotte de cheval et d'aller s'occuper du champ de maïs. J'accompagne mon père jusqu'à la grange où il passe une demi-heure à harnacher les chevaux. Puis il s'appuie contre la barrière et me dit qu'il serait content de reprendre ses cours à la fac, car le travail de la ferme est vraiment trop ennuyeux. J'acquiesce, c'est un dur travail qui ne rapporte pas grand-chose. Puis il s'éloigne avec les chevaux et je dis « content de t'avoir vu » en me dirigeant vers ma voiture. Quelqu'un passa sur la route et klaxonna. J'agitai la main et repris mes esprits. Un autre lève tôt. Je remontai en voiture et repartis vers Reed City.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestudia avec à la technique Jean-Richard Dufour. Elle a été préparée par Estelle Gapp, Leïla Kourousselikoua, Pirine Maninge et Claire Tesser. Bonne soirée et à la semaine prochaine.